Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, je suis en compagnie de Ronan de Calan, que certains connaissent peut-être pour l'avoir vu ou entendu l'année dernière donner une conférence sur la critique du luxe au XVIIIe siècle et qui est revenu hier, vendredi 22, donner une conférence dans le cadre des Rencontres de Luc, qui avait pour métier un titre impossible. Titre impossible, on va peut-être partir de cette idée qui introduira la conférence que vous aurez certainement l'occasion d'entendre ensuite ou que vous aurez peut-être entendu au préalable de cet entretien. Un métier impossible qui nous a d'ailleurs encore ce matin, puisqu'il est 9h30 et que nous sommes à l'extérieur au soleil du Diwa, fortement agité. Voilà. Donc commençons par cette proposition, un métier impossible, point d'interrogation. Comment peut-on réinterroger cette question ?
Alors, l'expression métier impossible, elle vient d'une plaisanterie de Freud, qui, dans la préface d'un livre d'un jeune pédagogue, dit, au fond, il y a trois métiers ou trois tâches qui sont rigoureusement impossibles, c'est enseigner, guérir et gouverner. Alors, je me suis intéressé pour cette conférence à ce premier métier ou cette première tâche définie comme impossible, qui est la tâche d'enseigner. J'ai laissé de côté d'autres tâches tout aussi importantes et tout aussi intéressantes pour nous aujourd'hui, qui sont celles de guérir et celles de gouverner. Donc enseigner, métier impossible, je choisis de le présenter sous la forme de tous les renoncements qui sont ou toutes les rébellions qui sont associées à l'enseignement du point de vue de celui qui enseigne comme du point de vue de celui ou celle qui reçoit l'enseignement. Qu'est-ce que c'est que de renoncer à son métier? Qu'est-ce que c'est que de renoncer à l'ensemble des tâches qui lui sont associées, d'être découragé pour l'enseignante ou l'enseignant? Ils sont trop nuls, ils sont trop mauvais, je ne sais pas quoi faire d'eux. Et du point de vue de l'apprenant ou de l'apprenante, comme on disait dans les écoles de pédagogie, à l'INRP notamment, qu'est-ce que c'est que soi-même soit renoncer, je suis trop nul, je ne peux pas y arriver, j'arriverai pas à apprendre, ou voire même effectivement manifester toute une gamme de réticences qui vont jusqu'à la rébellion pure et simple, c'est-à-dire la lutte contre le système scolaire. C'est de ça que, de ces faits, qui sont des faits hautement problématique et en même temps très régulier à l'école, pas simplement à l'école, mais dans tout système d'enseignement, que je voudrais partir.
Il y a quelque chose que toutes les personnes qui sont en train d'écouter cet entretien, ou ont comme moi, comme Ronan, c'est-à-dire traverser cette période de la vie. Chacun a eu, d'une manière ou d'une autre, une phase d'apprentissage, plus ou moins longue, suivant les époques. Moi, je me souviens d'une époque où d'avoir son certificat d'études était déjà extrêmement important puisque la société offrait des perspectives. Puis on s'est aperçu à travers le temps que tous les diplômes, et on arrivera certainement au baccalauréat, peut-être à l'évoquer, tu l'as évoqué hier soir dans ta conférence, mais qui devient le niveau extrêmement minimum pour accéder à une formation en rapport avec ses désirs. Comment, puisqu'on va revenir des expériences personnelles, qui sont toujours intéressantes, parce que je crois qu'elles remuent des histoires et peut-être des regrets. Chacun peut dire « Ah, si j'avais su » ou « Si on m'avait poussé », il y a toujours une forme un peu « J'aurais pu faire mieux »,« On m'avait dit que ». Voilà, tout un tas de possibles qui nous ramènent à nos propres histoires et au profond, à des affects profonds, je crois. Je vais partir de Ronan. Ronan, comment il trace sa route à travers cette école dont il parle aujourd'hui?
Alors, pour ce qui est de mon expérience scolaire, moi, elle n'a pas été particulièrement malheureuse, même si je dois le souligner, il y a une expérience générique de l'école, une expérience qui est donc partagée par tous, qui est l'expérience d'un milieu souvent gris et triste dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, un espace traumatisant dans lequel un certain nombre d'expériences conservées marqueront durablement les sujets de façon négative. Et plus rarement, un espace dans lequel on a fait des découvertes absolument faramineuses, sidérantes et très heureuses dans sa propre trajectoire, pas simplement sociale, mais surtout, surtout personnelle et affective. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai à peu près ces trois dimensions de l'expérience que j'ai pu rencontrer successivement au sein même de l'école. S'il s'agit simplement de parler de l'école. J'ai suivi une scolarité dans une école pilote, qui était une école ouverte de type Freinet pendant tout le primaire. Une école publique pilote qui était l'école Saint-Méry, enfin on l'appelle l'école Saint-Méry, l'école de la rue Durnard. Et dans le cadre de cette école ouverte, j'ai effectivement fait des expériences fondatrices qui étaient tout à fait heureuses. Mes parents ont déménagé en banlieue parisienne lorsque j'avais 11 ans, et donc je suis arrivé dans un collège de banlieue typique d'une formation classique, et là ça a été une expérience plutôt traumatisante de l'école. Mais dans le cadre de cette expérience traumatisante, j'ai pu faire aussi des rencontres particulièrement heureuses, dont celle d'un enseignant et écrivain dont je parle dans la conférence, qui est Pierre Bergougnoux. Pierre Bergougnoux a eu un rôle énorme pour moi, et il a eu un rôle énorme dans ma formation. Pour le reste, j'ai suivi une destinée qui est quasiment une destinée de classe. Étant fils de classe supérieure éduquée, j'ai fini prof. C'est quelque chose d'assez prévisible dans une certaine mesure.
L'homme providentiel, la femme providentielle, est-ce que nécessairement doit-on passer par là pour avoir un itinéraire qui nous donne des perspectives ?
Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a besoin effectivement de faire une rencontre inaugurale pour changer éventuellement de braquet, notamment pour certains traverser les classes sociales, pour envisager un autre univers ? Je pense effectivement que certaines expériences à l'école sont structurales du fait même du poids que le système scolaire joue sur les destinées individuelles de chacun. C'est quelque chose d'absolument déterminant. Ce poids, la plupart du temps, il se manifeste par un mécanisme, j'en parle dans la conférence, un mécanisme de reproduction sociale qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, bien huilé, qui a des effets particulièrement délétères aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, du fait même de la constitution du collège unique, dont j'ai dit qu'il était animé des meilleures intentions. À partir du moment où, au fond, on a élaboré un système scolaire qui était homogène à l'image que pouvait avoir, dans une certaine mesure, une certaine bureaucratie d'État de l'homogénéité de la société, et non plus stratifié comme il a été à l'origine. Le système d'instruction publique obligatoire des lois Ferry 1880-1882 est totalement stratifié socialement, et il est lié à la conscience de classe de chacun des membres de classe sociale qui le composent dans une certaine mesure, et aux trajectoires scolaires et inséparablement sociales de chacun des membres qui le composent. Dès lors qu'on a établi un système aussi homogène que celui dont on hérite, on ne peut pas ne pas faire, comme le dit très bien Pierre Bergougnoux dans son livre sur l'école, ne pas faire entrer la lutte des classes au sein même de la salle de classe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Au sein même d'une classe, vous avez différentes classes sociales qui s'entrecoupent, se recroisent, se font dans une certaine mesure violence, et un processus de ségrégation absolument inouï et quasi mécanique qui s'exerce en particulier sur les classes populaires, à qui on délivre soit des diplômes qui n'ont pas de valeur ou très très peu, soit pas de diplôme du tout pour une frange relativement significative d'entre eux ou elles. Donc face à ce mécanisme-là, oui, c'est vrai, la femme providentielle ou l'homme providentiel peut être une voie de salut, peut en sauver quelques-uns, mais cela repose essentiellement sur le volontarisme inouï du corps enseignant, outre le fait, bien sûr, que ça repose sur un volontarisme inouï de l'élève elle-même ou de l'élève lui-même.
Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, la lutte des classes. La lutte des classes a été, pour les plus jeunes, ça ne parle peut-être pas beaucoup, pour les plus âgés, ça parle plutôt beaucoup, puisqu'en règle générale, ceux qui sont nés après la guerre ou jusque dans les années 60 sont au cœur des luttes sociales et des luttes de classe, puisqu'il y a un parti qui se prétend, et je pense qu'il était en tous les cas un fort représentant, en tous les cas pendant au moins 30 ans, des classes dites populaires. Il y a deux mouvements qui me paraissent peut-être pouvoir remettre en exergue, ou en tous les cas peut-être en en perspective ces deux éléments-là. Je souhaiterais avoir ton sentiment là-dessus. C'est un, les gilets jaunes, qui réintroduisent, en tous les cas de mon point de vue, au moins un sentiment, peut-être diffus, mais non présenté comme ça. Je pense qu'il y a très peu de leaders de gilets jaunes qui partent de lutte des classes ou pas, qui parlent de classe. Et deuxièmement, le mouvement, je dirais, citoyen, que je considère comme citoyen, des jeunes qui décident de quitter leurs établissements tous les jeudis et pour devenir des citoyens, réclamant une justice qui est sociale et qui est écologique et qui, là, va peut-être à rebours de ce que j'étais en train de dire pour les gilets jaunes, qui est plutôt une fusion, mais encore, il faudra peut-être sociologiquement étudier ce que sont aujourd'hui les jeunes qui sortent dans la rue, mais qui est une sorte de fusion de classe. Plutôt, il y a un sujet qui porte un ensemble de jeunes à sortir et à défiler dans les rues au nom du réchauffement climatique et des mesures nécessaires à prendre par les gouvernements. C'est peut-être une phrase un peu longue et un sujet très vaste, mais tu peux l'aborder dans le sens que tu souhaites.
Je ne sais pas si la phrase est un peu longue, mais le sujet, oui, il est très vaste. S'agissant des manifestations des jeunes pour le climat, elle renvoie les générations qui les précèdent à leur propre impuissance. Donc c'est à la fois quelque chose d'humiliant et d'exaltant. Humiliant parce que nos générations, celles qui précèdent, moi j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, font état, ne peuvent pas ne pas faire état de l'impuissance qu'elles ont fabriquée ou contribué à reconduire. Il est particulièrement choquant, et on comprend l'exaspération de la jeunesse aujourd'hui, de voir à quel point nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait et nous savions. J'ai redécouvert quelques livres pendant les vacances dans la bibliothèque des parents, des livres des années 60, 70, de mathématiciens qui participaient au premier courant écologique autour de Grothendieck et quelques autres. En relisant ces livres qui paraissaient en poche 10-18, à la fin des années 60, tout début des années 70, ce que j'ai constaté, c'est que l'intégralité des conséquences prévisibles de la pollution atmosphérique et en particulier de la pollution au CO2 était décrite avec une précision, une rigueur absolument exemplaire, de même que les problèmes démographiques étaient pensés, ce qu'on appelle la bombe population ou la bombe H était pensée ou réfléchie. Tout ça était décrit par le menu, et ces textes-là ont une quarantaine d'années déjà, facilement. Or, nous n'avons rien fait. Alors nous, dans notre impuissance individuelle, mais par ailleurs, les gouvernements dans leur impuissance fabriquée. Donc c'est quelque chose qui, bien sûr, est profondément... profondément décevant du point de vue de nos générations. En revanche, c'est vrai que ces mouvements citoyens qui sont fabriqués par une conscience et qui sont par une conscience scolaire, si je puis dire, ou à travers elle, et qui se manifestent justement par des mouvements de jeunes de 15 à 18 ans, c'est très très beau. Hein. C'est à la fois beau et c'est porteur d'espoir. C'est vrai que quand on voit une manifestation dans les rues de Paris pacifique d'une part, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose dans les temps qui courent, mais qui rassemble cette jeunesse-là, on a tout lieu d'espérer parce que effectivement ils sont le moteur de toutes les sociétés industrielles et de manière générale de toutes les sociétés tout court. Donc à partir du moment où ils élèvent la voix, on ne peut pas ne pas les entendre. Et de manière générale, quand ils ont élevé la voix, on les a toujours entendus. S'agissant maintenant des gilets jaunes, il est plus difficile d'occuper une position tranchée sur un tel sujet, en grande partie pour les raisons que tu as dites. Les partis politiques qui étaient et les syndicats en grande partie, qui étaient les éléments de cette conscience de classe, ont soit disparu, soit se sont dans une certaine mesure corrompus, soit lorsqu'ils n'ont pas disparu ou ne se sont pas corrompus, sont dans une situation de faiblesse qui est pas simplement pathologique, qui est parfois organisationnelle, qui est purement bureaucratique. Et cette faiblesse-là, elle ne permet pas de produire un relais du point de vue de la théorie, du point de vue de la réflexion sociale qui aiderait à acquérir quelque chose qui s'apparenterait à une conscience de classe. Un exemple, je cite dans la conférence où j'évoque Albert Thierry, qui donc était enseignant en primaire supérieure, comme on l'appelait à l'époque, dans ce système d'instruction publique hautement stratifié du début du XXe siècle. Albert Thierry est syndicaliste, et ce qui l'intéresse, c'est de savoir effectivement comment garantir une conscience de classe à ses petits élèves en vue de la révolution. Alors il est le premier à nous dire que c'est pas le système éducatif qui va faire la révolution, que c'est pas dans le monde scolaire qu'une pratique révolutionnaire va se construire. Je partage tout à fait son point de vue, il faut que la révolution précède en quelque sorte les mutations qui s'établiront dans le système éducatif, mais ça n'est pas le système éducatif qui sera le principe d'une révolution. En revanche, effectivement, il a une conscience de classe, et cette conscience de classe, il entend bien la faire passer à travers le curriculum scolaire moyen de n'importe quel élève. C'est pour lui une évidence. C'est pour lui une évidence qu'il y a des classes, hein, et que deux, il est très important d'avoir une conscience de classe. Lorsqu'on regarde le mouvement des Gilets jaunes, qui est lui aussi dans certains domaines porteur des plus grands espoirs, et en particulier d'espoirs de mutations politiques profondes et mutations économiques profondes, les premiers problèmes qu'on rencontre, ce sont ceux-ci. Est-ce qu'il y a ou non conscience de classe? Sous quelle forme? Et quels peuvent être les organes qui pourraient garantir sa perpétuation et une réflexion sur elle? Dès lors que le Parti communiste est mort, que la CGT, sans être absolument mourante, l'est quasiment, que d'autres partis ouvriers ou d'autres syndicats ouvriers sont sinon moribonds, sinon s'adressent à une frange particulièrement mineure et moins, peu importante de la population, on a tout lieu de craindre effectivement que ce mouvement puisse être adultéré ou orienté dans les mauvaises directions.
À travers tout ça, je crois que ce qu'on vient d'évoquer, on va peut-être poser une question un peu plus fondamentale, mais qui traverse tout ce que tu viens de dire et ce qu'on vient de dire concernant ces deux mouvements, c'est où est la politique? Qu'est-ce que ça veut dire la politique? Et aujourd'hui, je prends un exemple qui m'a marqué, qui a certainement marqué certaines personnes, c'est suite à l'attentat qui s'était passé en Nouvelle-Zélande, c'est la réaction extrêmement rapide et radicale du gouvernement néo-zélandais d'interdire les armes lourdes. C'est un phénomène assez surprenant et je crois assez unique. Je ne me souviens pas d'avoir entendu une prise de décision politique aussi rapide et aussi radicale. Ça remet le possible, qui paraissait complètement invraisemblable, je dirais même il y a 15 jours, que le politique reprenne le pas sur la doxa du tout économique. Une réflexion sur ce sujet?
Là aussi, ce n'est pas un mince sujet. La politique n'est pas qu'affaire de monopole ou d'absence de monopole de la parole publique, comme on a tendance à le penser. La question n'est pas de savoir qui parle, combien de temps il parle et s'il peut, lui, oui ou non, être entendu. La politique a une définition beaucoup plus radicale, c'est le lieu du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Pouvoir d'être, pouvoir de faire, pouvoir d'agir. Donc quand tu poses la question de savoir où est la politique, la réponse à cette question passe par un ensemble d'énoncés qui porterait sur le pouvoir. Où est le pouvoir? Où est-ce qu'il s'exerce? Sous quelle forme? Et c'est vrai effectivement qu'une partie du pouvoir qu'on aurait tendance spontanément à qualifier de politique est passée dans les mains d'autres acteurs que des acteurs à proprement parler politiques et qui souvent d'ailleurs sont des acteurs silencieux. Ce sont les acteurs économiques que tu as évoqués tout à l'heure. Oui, il y a toute une partie des prérogatives de l'action politique qui ont été transférées dans les mains de ces acteurs économiques qui sont des acteurs rationnels, délibérants, ayant une très très forte conscience de classe et une très très grande solidarité de classe et qui dans l'espace public sont globalement assez silencieux. J'ai pas besoin d'évoquer quelque chose qui s'apparenterait à un complotisme ou un complot des élites, c'est pas véritablement le propos. Ce qui est certain et ce qui doit être pensé pour nous citoyens, c'est cette démise de la politique et donc du pouvoir d'être et du pouvoir d'agir en faveur d'un groupe éventuellement ou deux groupes au pluriel, que ces groupes soient plus ou moins agrégés, qu'ils soient plus ou moins à bonne intelligence ou en opposition ou en concurrence, peu m'importe en réalité. Donc tu as évoqué un geste politique fort. Est-ce que d'autres gestes politiques forts sont possibles ? Eh bien là, au fond, un intellectuel ne peut pas faire autre chose qu'invoquer des expériences passées. Oui, la politique a eu lieu. Oui, il y a eu des gestes politiques forts. Pourquoi y a-t-on renoncé ? On a quantité de diagnostics disponibles pour penser ces renoncements politiques. Ce qui est certain, c'est que, à force de renoncer, on confie le pouvoir, dans les mains d'individus qui participent de structures absolument non démocratiques. S'il y a un lieu où la démocratie soit véritablement absente, c'est bien l'entreprise. C'est un lieu pour lequel l'idée même d'un démos d'abord, l'idée même d'un peuple, et l'idée même d'une délibération collective est à peu près globalement et universellement absente. Donc si on veut, si on cultive encore cet horizon démocratique, si on veut qu'il s'exerce, il faut redonner effectivement et accepter de redonner plus de pouvoir aux acteurs de la politique. Ça ne signifie pas forcément de leur faire plus confiance individuellement, mais ça consiste à se réemparer de domaines qui ont été cédés à d'autres. Si ça doit passer par la lutte, ça passera par la lutte.
Alors, je vais prendre un itinéraire peut-être un peu particulier, mais je me dis, nous sommes tous confrontés à ce qu'on appelle, peut-être en anglais qui m'échappe, les fake news. Et je me posais la question de savoir, les enfants, ils sont aussi, bien entendu, confrontés, puisqu'ils utilisent les mêmes médias que nous. Ce qui est aussi une originalité de ces générations-là, c'est que les utiliser en propre. Ne pas en être simplement auditeur ou spectateur, mais en être acteur. Je me dis, est-ce que, la mise en perspective de ces informations trompeuses ne permettrait pas, au sein de l'école, au sein de la société, de redéfinir un cadre plus politique, un cadre où chacun prendrait conscience des phénomènes de manipulation, des phénomènes de classe, tels qu'on vient de les décrire, des phénomènes de pouvoir. Est-ce que ce serait une voie qui paraîtrait envisageable, ou en tous les cas une voie qui permettrait peut-être de travailler la conscience, en tous les cas une capacité de critique et de mise en perspective d'informations qu'on prend de manière très affective, puisque nous sommes dans une société des affects quand même qui nous balance en permanence des événements extrêmement dramatiques et nous met dans une tension, de réintroduire, dans le cadre de la société, mais dans le cadre de l'école aussi, de la raison et de la réflexion, chose qui existe, j'en suis persuadé, et que chaque enfant et chaque individu possède.
Ça fait à nouveau beaucoup de choses. Les fake news ont eu un nom qui était relativement explicite dans les générations passées, auxquelles je me tiens et auxquelles je tiens, c'est le terme de propagande. Jusqu'à une période récente, en lieu et place des fake news, qui est un anglicisme, on parlait de propagande, et en particulier de propagande politique. Alors pourquoi est-ce qu'on a opéré ce glissement ? Il y a un certain nombre de raisons, mais deux principales auxquelles je pense immédiatement. La première consiste à identifier la source de ces nouvelles et effectivement, dans un certain nombre de cas, les fake news ne sont pas les éléments d'une propagande purement politique qui viendrait des partis ou des États si on assimile la politique à l'exercice de l'État l'accaparement du pouvoir de l'État par les partis politiques. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie de ce pouvoir était cédée en dehors du champ politique lui-même. Donc une des raisons pour lesquelles on parlerait de fake news, c'est qu'on parlerait effectivement d'une manipulation de l'information qui émanerait d'autres instances que des instances purement politiques. Je crois que c'est un élément important de la source de ce terme. Il y a un deuxième élément qui, lui, est beaucoup plus politiquement correct et très problématique, qui consiste à distinguer entre les fausses nouvelles, mauvaises nouvelles, et les nouvelles mal fondées et des nouvelles dites objectives, et qui cultive par rapport au domaine de l'information une neutralité ou une pureté de l'information qui me semble relativement mal fondée. Il n'y a pas d'information qui ne soit pas politique. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de vérité. Bien sûr, il y a une vérité. Bien sûr, il y a une question de la correspondance des énoncés et des faits, et cette correspondance doit être absolument défendue. Mais le problème qui est le nôtre aujourd'hui ne consiste pas simplement à défendre les modalités de cette correspondance, mais au-delà, à défendre la valeur d'un certain nombre d'énoncés. Quels énoncés ont une portée politique, lesquels n'en ont pas, et quelle politique veut-on faire à travers ce type d'énoncés, que ces énoncés correspondent ou non au réel. Il est très possible que l'école soit le lieu de ce double apprentissage, pas simplement d'un apprentissage de la vérité, qui est un apprentissage absolument essentiel, mais un apprentissage d'une politique de la vérité, c'est-à-dire quel est le lien non seulement qu'on doit entretenir avec la vérité, et pourquoi ce lien à la vérité est si essentiel dans les démocraties. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait être en mesure de soutenir. Je ne suis pas sûr qu'on puisse opérer ce double combat en se cachant derrière ce parapluie des fake news.
On est dans une société qui est confrontée à quelque chose, peut-être pas de nouveau, mais en tous les cas qui prend un certain relief, c'est l'opinion opposée aux faits. De plus en plus d'hommes politiques, ou même peut-être dans nos sociétés, des gens qui disent « c'est ton point de vue », mais le fait n'est pas l'élément déterminant de la position. Des gens vont dire l'Alsace, la France et l'Allemagne ont signé un accord à Aix-la-Chapelle, et l'Alsace n'appartient plus à la France. Et quand on vient sur quoi testez-vous cette affirmation, c'est mon opinion. Enfin, globalement, c'est la réponse n'est absolument pas en rapport avec les documents qui ont pu être rédigés, éventuellement les paroles qui ont été prononcées. Juste une réflexion sur cette tendance lourde.
On rejoint un peu le débat qu'on a eu à l'instant. Effectivement, lorsqu'on oppose les opinions aux faits, la question reste de savoir à quel relativisme on a affaire. Ce qu'on appelle le relativisme, c'est l'idée selon laquelle tous les énoncés de tous les individus concernés seraient à placer sur le même plan et que de vérité, il n'y aurait pas, si ce n'est pour un individu donné. C'est ma vérité contre ta vérité, etc. Tout un pan de la philosophie, pas simplement de la philosophie de la connaissance, mais également de la philosophie politique, s'en est ému de ce dit relativisme et lutte et tâche de lutter pied à pied contre lui. Mais il me semble que la position de neutralité, la position de pureté scientifique qui est la leur, occulte largement le fait que la source de l'opinable est une source proprement politique. On ne peut pas se passer de politique, on ne peut pas se passer du choix politique, y compris de ces objets, quand bien même ces objets sont des objets de pure connaissance. C'est un choix politique que de tourner son attention vers le monde de la physique, par exemple, et vers ses lois. Autrement dit, la culture d'une connaissance physique fait l'objet d'options culturelles ou politiques fortes. On pourrait tout aussi bien, comme certaines sagesses orientales, souhaiter s'en détourner, c'est-à-dire se détourner du monde physique et de ses lois. Tant qu'on n'aura pas compris que l'attachement à la vérité est lui-même un attachement proprement politique qui engage politiquement les individus qui s'en revendiquent, on n'aura pas d'outil de résistance au relativisme que tu dénonces. C'est mon opinion, c'est ma vérité, etc. etc.
Bien, dernière question qui fera introduction à la conférence. Pour Renan de Calan, c'est quoi l'école idéale ?
J'ai vécu un peu l'école idéale pour ma part, quand j'étais dans une école ouverte, une école Freinet, et il y a quelques années de ça, ça doit être à peu près une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années, j'ai retrouvé par hasard à la Bibliothèque Nationale, quand je travaillais sur ma thèse, un jeune thésard qui lui-même était passé par la même école, et on est tombé dans les bras de l'un de l'autre, profondément ému, alors même que on s'était pas vu depuis 25 ans et qu'on n'avait aucune raison d'avoir des atomes crochus particuliers, uniquement parce qu'on avait eu cette même expérience inaugurale d'une école ouverte qui nous avait durablement marqué. L'école ouverte, c'est quoi? C'est déjà une école ouverte aux parents. C'est une école ouverte qui fonctionne pas comme une sorte d'institution pénitentiaire à l'envers. L'institution pénitentiaire traditionnelle, c'est une institution qui empêche ceux qui ils sont enfermés de pénétrer vers l'extérieur. L'institution scolaire, comme institution pénitentiaire à l'envers, c'est une institution qui empêche le monde extérieur de pénétrer à l'école. C'est ce qu'on rencontre la plupart du temps dans les établissements publics, en particulier dans les établissements publics parisiens, qui sont par ailleurs gouvernés par des exigences de sécurité qui interdisent, semble-t-il, même si je doute du bien fondé de ces énoncés, de laisser les parents rentrer dans l'école. Une école ouverte, c'est une école qui permet également aux enfants des apprentissages autonomes, une circulation des savoirs et de récuser la valeur d'un certain nombre d'énoncés, y compris quand ces énoncés sont avancés par des adultes, ou de récuser l'intérêt d'un certain nombre de cours, y compris lorsque ces cours sont dispensés par des adultes. Donc elle est ouverte à la circulation des enfants. Quand les enfants s'ennuient, ils peuvent aller voir ailleurs. Et cette idée de voir ailleurs, c'est une idée que l'école actuellement ne permet pas, d'où son assimilation souvent à un cadre pénitentiaire ou un cadre disciplinaire. Moins on imposera ce type de discipline, plus on permettra la circulation des élèves, plus, me semble-t-il, on aidera leur éducation. C'est pas du tout un principe d'anarchie au sens péjoratif du terme, même si je crois pas du tout qu'un régime anarchique soit à prendre à la légère ni à considérer comme nécessairement négatif. Non, en général, les systèmes autogérés sont des systèmes très bien gérés.
Et bien sûr, sur ces derniers mots que nous allons conclure cet entretien, et je pense qu'il vous donnera le désir d'aller plus loin en écoutant la conférence de Renan, que je remercie de sa présence à nouveau, qui va nous quitter après une causerie du lendemain qui va avoir lieu dans quelques minutes et qui permettra à chacun des participants à cette causerie de pouvoir discuter à bâton rompu avec Renan sur le sujet évoqué, mais certainement sur d'autres, puisque à travers cette interview, nous avons, je dirais, vu différents points de vue et en tous les cas différentes approches. Merci de votre écoute et à très bientôt.
Okay, the bird.
L'interview du jour.